La Fontanelle.
Fragments sensibles et politiques.
Microcosme Murmure d'une cité est une recherche création, un working progress du groupe artistique Les Allumeurs, de la web radio sensible et politique La Fontanelle et du média L'Insatiable, l'art principe actif. Elle s'est inventée en 2020 dans la cité Émile Dubois à Aubervilliers. Quand la ville est transformée, souvent on détruit. Derrière la démolition d'appartements parfois vétustes, il y a des histoires, des vies, un tissu de rencontres et de cultures, des souvenirs. Rendre audible et visible la vie des habitantes et habitants sur les transformations de leur quartier, comprendre les mécanismes d'aménagement urbain, rencontrer les associations et acteurs locaux, explorer l'histoire des banlieues et de l'immigration, écouter et recueillir des traces de ce qui se vit et se fait, tout cela a constitué la première étape du projet Microcosme qui a donné lieu à une édition. Nous poursuivons cette recherche-création en vous proposant, à partir de mai 2021 et tous les premiers mercredis du mois, un portrait d'habitante ou d'habitant de la cité Émile Dubois.
Passionnant marche. C'est une histoire de jardin, de piscine, de solarium. Histoire que vous connaissez sûrement et dont vous avez entendu parler.
Le fort d'Aubervilliers, aux frontières de Pantin et de la Courneuve, a été racheté par une agence foncière de l'État en 1973, aujourd'hui Grand Paris Aménagement, GPA. Depuis 10 ans, un projet d'aménagement a démarré sur le fort d'Aubervilliers, le futur métro, ligne 15 et les JO 2024. Dans ce contexte, 10 000 m² des jardins ouvriers des Vertus sont dédiés à un complexe aquatique comprenant une piscine d'entraînement olympique, un bassin ludique, un toboggan, un centre fitness, un spa finlandais et un solarium minéral. Tous ces équipements étant trop importants pour tenir sur le parking attenant, ils déborderont sur 10 000 m² de parcelles des jardins ouvriers des Vertus. Une promesse officielle a été de préserver ces jardins et en compensation de leur disparition, ont été proposées des parcelles du jardin limitrophe sur la commune de Pantin. Malgré cette compensation, ce projet représente une perte d'espace vert au sein de ce jardin centenaire pour la ville d'Aubervilliers et ses habitants et habitantes. Cette décision s'inscrit dans le projet d'éco-quartier du Grand Paris et des 10 JO verts.
On nous a attribué un logement sur 3 rue Émile Dubois dans un nouvel immeuble où on était très très contents. Surtout, bon, on a en 2 pièces, mais on a un balcon. On était très contents donc d'avoir ce balcon et où j'ai pu faire mes fleurs, passer un bon moment en été où lorsque ma famille venait, on s'asseyait là-bas pour discuter. C'est très sympathique et surtout c'est un espace qui est ouvert sur un jardin. On n'a aucun bruit. Donc on était très très contents de s'y installer. Mais en tous les cas, je trouvais ce quartier très vivant dès le début parce qu'il y a beaucoup de personnes de nationalités différentes et moi, j'adore ça. Comme j'ai quand même pas mal voyagé, j'aime toujours voir les femmes qui sont habillées dans les costumes traditionnels africains ou les robes d'origine maghrébine. C'est extraordinaire parce que je vois par exemple une mamie, elle a quel âge? Elle peut avoir dans les 75 ans, mais jusqu'à aujourd'hui, elle s'habille dans le costume traditionnel de Kabylie, brodé, décoré avec son fichu, mais c'est extraordinaire. Donc c'est cette richesse que j'ai aimée depuis le début.
Elle chantait en solitaire en Bambara, Fontanelle, deux villes de cœur, Bamako et Aubervilliers.
Émile Dubois, à vrai vous dire, je découvre ce quartier au fur et à mesure puisque j'ai travaillé jusqu'en 2018 Et ensuite, je suis allée à la retraite, donc j'ai pas eu le temps trop de connaître le quartier. Et du fait, comme j'avais un peu plus de temps, j'ai commencé à m'intéresser à toutes les associations et les activités qui sont installées à Aubervilliers. Et là, je me suis vraiment... j'étais étonnée de la richesse d'associations qui existent à Aubervilliers. Et justement, grâce aux portes ouvertes du patrimoine, j'ai eu l'occasion pendant plusieurs années de visiter les quartiers d'Aubervilliers et donc parmi l'une d'elles, j'ai découvert les jardins d'ouvriers des vertus que je ne connaissais pas et j'habite pourtant à 500 mètres de là.
Ces jardins, nous les protégeons parce que la terre est précieuse, parce que détruire les jardins...
Alors, nous avons rencontré Marie au tout début de notre recherche-création, Microcosme, l'a bien nommée. Ça a même été la première habitante rencontrée en janvier 2020. Et dès le second jour, Marie, tu nous as fait une visite hivernale du Jardin des Vertus.
Société des Jardins Ouvriers des Vertus d'Aubervilliers. Les jardins ouvriers, pourquoi ? Ces jardins ont été créés en 1935, justement pour les besoins des ouvriers qui avaient besoin d'un espace de repos et de culture pour leur potager. Car comme si on connaît l'histoire d'Aubervilliers, on sait que dans les années 20-30, c'était une grande industrialisation. Et donc c'était à l'impulsion de l'abbé Lemire qui a essayé dans toute la France appuyer les autorités pour qu'on laisse l'air en terrain pour pouvoir construire donc les jardins potagers pour leurs besoins personnels, pour le repos et aussi pour les ouvriers qui, après le travail, avaient tendance à aller au bistrot, qu'ils s'occupent mieux des terrains que d'aller au bistrot. C'est curieux ça. Et je me suis toujours posé la question pourquoi il y a autant de bistrots. Donc ça c'est ouvrier et des vertus. Pourquoi ? Heureusement donc, le nom des vertus, c'est le nom de la plaine agricole depuis le 14e siècle où s'est produit un miracle à l'église Notre-Dame au centre-ville. C'était un miracle où, cette année, 1388, il y avait une grande sécheresse. Et une paysanne qui s'occupait de la Vierge à l'intérieur de l'église s'occupait toujours d'elle. Elle la nettoyait et d'un seul coup, elle voit que les larmes commencent à couler de ses yeux. Donc, le lendemain, une abondante pluie se produisit et donc depuis ce temps-là, on a donné surnom à cette énorme plaine agricole, pleine des vertus.
Mais cette année, il ne pourra pas le mettre en décalage, justement, il ne pourra pas le mettre là.
Ah, que je vous décrive le jardin, mais c'est extraordinaire. Non, c'est déjà ça évoque une émotion, franchement, pour moi, je suis trop sensible. Et déjà, c'est, pour moi, c'est le petit paradis, c'est la vie des arbres, la vie des abeilles, l'écosystème. C'est un lieu qui, je me suis rendu compte, qui vous donne plein d'énergie. C'est difficile à y croire, mais je l'ai constaté moi-même. Je sors de mon appartement, je peux avoir mal à la tête, je ne suis pas bien, je suis un peu démoralisée, surtout aujourd'hui. Je vais au jardin, j'oublie tout. Il y a une énergie qui se dégage. Et Au fait, la perception, tous les sens s'éveillent en vous, la vue de la verdure, le bruit des oiseaux, vous êtes dans la nature.
Nous ne voulons pas de ce futur bétonné qu'il va nous imposer. Nous voulons des réponses.
Donc moi je m'appelle Ziad Malouf, je suis journaliste, comment je pourrais dire, militant associatif quand même pas mal depuis un certain temps, c'est assez nouveau, jardinier au Jardin des Vertus depuis maintenant 3-4 ans. Voilà, j'ai eu la chance d'obtenir un jardin beaucoup plus rapidement que ce que je pensais.
Alors, je m'appelle Dolores, j'habite Aubervilliers et le quartier, là, pas loin, la Courneuve, depuis 26 ans maintenant. Donc, ça fait déjà un bail. J'ai un investissement associatif sur la ville. Je suis présidente d'une asso.
On est un collectif au sens assez originel du terme, c'est-à-dire qu'on est des gens, on est des personnes qui se sont mises ensemble pour agir ensemble dans le but de défendre un espace. On n'est pas du tout hiérarchique, on n'est pas du tout organisé de manière administrative, on n'a pas de compte en banque, on ne compte pas nos adhérents, nous n'avons pas d'adhérents, nous sommes une entité en mouvement. Et après, si on devait compter les troupes, je dirais que au cœur du réacteur, on est une petite dizaine, avec des gens plus ou moins investis, des gens qui vont, qui viennent. Et puis, quand on élargit les cercles, ça monte assez vite parce qu'il y a beaucoup d'autres collectifs qui sont très proches de nous, comme les brigades de solidarité populaire, comme Extinction Rébellion, comme d'autres collectifs.
Youth for Climate.
Youth for Climate, etc.
Et d'autres.
Et qui sont toutes et tous prêtes à se mobiliser sérieusement pour défendre cet espace parce que tout le monde est vent debout contre les projets de bétonisation de ces jardins que tout le monde trouve absurdes, inutiles, anachroniques, obscènes, criminels, etc. Donc voilà.
Ma vie avec le jardin, c'est des fois ça peut être surprenant, des fois on me prenait pour une folle, parce que la dernière année, lorsque j'ai eu encore le jardin, j'ai travaillé encore, parce que je me suis arrêtée de travailler lorsque j'avais 72 ans, mais avec plaisir, j'avais même pas envie de m'arrêter. Donc avant d'aller au travail, le matin, je commençais à travailler à 9h, et avant donc d'aller au travail, à 7h30, j'allais arroser mon jardin pour que ça pousse, parce que la journée, je n'aurais pas le temps. Et lorsque j'ai raconté ça au bureau, ils m'ont dit, mais c'est pas vrai. Ben oui, c'est vrai, parce que je veux que ça pousse, je vais avoir un beau jardin, je vais avoir des légumes. C'est ça. Donc, les gens, c'est intéressant parce que, au fait, sur ces jardins, nous sommes de nationalités différentes. Et ça retrace quand même aussi l'histoire d'Aubervilliers avec l'industrialisation qui a commencé. Nous avons des Portugais, les Espagnols, il y a des Serbes, Polonais, il y a les Cambodgiens. Au fait, de toutes les nationalités, et chacun cultive sa parcelle avec des légumes qu'il aime. Et donc, si vous voyez beaucoup de choux, ça veut dire que c'est les Portugais parce qu'ils adorent les choux. Et ce sont des choux, on ne le voit nulle part. Il peut atteindre des fois 1 mètre et quelques de hauteur.
Une piscine, ce n'est pas un équipement rentable. C'est un équipement forcément déficitaire vu que c'est un équipement public. pour un service public, en fait, pour que des enfants apprennent à nager, pour que des adultes, des personnes âgées fassent du sport, etc. Mais dans le modèle actuel, SPI Batignolles et puis le Grand Paris construisent ou souhaitent construire des piscines qui seraient rentables économiquement. Et pour que ce soit rentable, ça ne peut plus être une piscine. Il faut que ce soit quelque chose d'un type, d'un espace aqua, ludique, bien-être, etc. Donc, on met toutes ces choses-là à côté. On fait payer un prix d'entrée qui, pour ce type d'équipement, varie entre 16 et 22, 23 euros.
Et moi, je mange même les fleurs de chou, c'est trop bon. Parce que tu sens le chou. Tu peux manger, hein.
Goûter.
Bien sûr.
Merci.
Non, c'est génial. Moi, j'adore. C'est vrai ou pas? On dirait que c'est mieux que le chou.
Mais oui, en salade.
Donc, chaque fois, tu vois, je profite et hop. Voilà. Donc, t'es que là, je t'ai dit. Et regarde ce magnifique romarin qui est en fleurs. C'est magique, ça sent bon. Il est là depuis 20 ans au moins. Regarde en fleurs. Ça fait une belle photo. Regarde comme ça sent bon. Moi j'adore. T'as entendu les oiseaux? Nous avons un jardinier passionné qui a recensé 28 espèces d'oiseaux, dont un pivert. Et tu vois, lorsque j'ai dit, je suis un peu sensible, lorsqu'on marche sur ce passage, je pense à toutes ces personnes qui marchaient sur la même parcelle depuis 1935. C'est bizarre, j'y pense.
Période de légumes ou période de saison, bien.
Donc, 10 ans. Nous avons mis même une jardinière qui a 4 ans, 11 ans, et tu ne lui donnerais pas l'âge, tellement elle est physiquement, elle s'occupe. Tous les jours, elle est là, son jardin est magnifique, et elle est enchantée. Il y a une personne là. Mais je ne pense pas qu'elle serait là aujourd'hui, Eliane. Elle a, dans les 84 ans, elle a depuis 45 ans. Et bien, lorsqu'on lui pose la question, qu'est-ce que le jardin représente pour toi, elle répond, c'est ma vie. C'est ma vie. Et elle a dit, si on m'enlève, mais je n'irai pas ailleurs.
La vie est une vraie source de jardin.
Là. Tu vois, ça, c'est ma parcelle de ce côté. Moi, j'ai deux mirabelliers. Pour le moment, je prépare le terrain. Hier, j'ai préparé la terre pour planter les pommes de terre. Mais j'attends le 15. Hein. J'ai fait des trous, comme ça, c'est bien imprégné de pluie. L'été, au fait, j'ai une barrière de topinambour. À l'automne, je coupe, ça sèche, je les mets sur les parcelles et les feuilles sont absorbées au fur et à mesure. J'ai beaucoup de lavande, comme je t'ai déjà dit, ça attire les abeilles. Et je fais aussi mon compost, là j'ai un petit abri aux insectes. Et là, je propose aux gens qui, s'ils veulent, de prendre du laurier. Si vous voulez, vous en prenez. La verdure, à nous, vous tous, fait du bien. Nos légumes ont le goût d'antan. L'air sent bon le romarin. Les oiseaux chantent dans nos jardins. Une fois sur le passage de Sourire, il y a un hérisson qui s'est baladé. Allez, visiteur. Oh, en hérisson. Les citadins qui n'ont jamais vu d'hérisson, ils ont vu ici un hérisson. Et pour anecdote, tu vas rigoler, donc mon voisin, le voisin de ma parcelle, trouvait des noix, des coquilles de noix un peu partout. Et moi aussi dans ma parcelle. Je dis, Jean-Louis, qu'est-ce que tu fais? Tu manges beaucoup de noix, tu manges des coquilles, mais non. Et après, au fur et à mesure, il a observé d'un seul coup dans sa cabane, il y a un petit sous-plafond, il a aperçu la queue de l'écureuil. Donc au fait, dans sa cabane, il y avait un écureuil qui, lui, parce qu'on a des noyers, il a ramassé des noix, il les a gardées pour se nourrir l'hiver. Et les coquilles, j'en trouve encore aujourd'hui, les coquilles de noix vides.
Tous les aménagements extérieurs, c'est ça qui va rendre l'air irrespirable dans cette zone où l'air est déjà irrespirable à cause de la bétonisation. Donc on va bétonner encore un hectare dans une des zones les plus pauvres de France. On est vraiment dans une des zones les plus pauvres de France. On est dans c'est que des cités ici, c'est que des cités. Et on va rendre l'air encore plus étouffant pour des personnes. Et en plus, elles n'auront pas accès aux équipements. Ça veut dire qu'à 16 euros l'entrée, même les nouveaux riches d'Aubervilliers, dont je fais partie, ne peuvent pas y aller. Je ne vais pas emmener ma famille à 45 euros la journée à la piscine. Donc qui en fait, va venir utiliser un spa et un solarium et un truc à 16 euros la journée ici à Aubervilliers? Qui va faire ça? En fait, franchement, je ne sais pas. En revanche, ce dont on est certain, c'est que toutes les personnes qui sont autour vont avoir des étés encore plus étouffants pour un équipement qui, de manière certaine, ne pourra pas leur profiter, quoi. On arrive vraiment à des situations...
C'est ubuesque.
Et donc, pour moi, je pense que la permaculture, ça serait idéal. Donc, les déchets de légumes qu'on a de la maison, on les met dans le compost. Mais je me rends compte, comme on a visité une parcelle, que c'est mieux quand même de mettre directement en sol et ça fait travailler les vers de terre, les animaux microscopiques, les bactéries qu'on ne voit pas, qui décompactent le sol. Et c'est, pour moi, je pense que c'est écologique parce que ces parcelles gardent plus d'humidité. Vous n'avez pas besoin de trop les arroser. Donc, tous les atouts sont là. Et vous n'avez pas besoin de retourner la terre, et je pense en la retournant, on la sèche, on l'appauvrit. Oui, la vie, moi, je suis très, très contente. La vie sociale, oui, comme j'ai déjà dit au début, lorsqu'on arrive, les pères des anciens jardiniers vous disent bonjour, Marie, n'hésite pas, si tu as besoin de quelque chose, on te donnera un coup de main. Ils sont toujours là, prêts à vous aider. Et au fur et à mesure, on fait connaissance donc avec des jardiniers, de leurs habitudes, on se réunit, on boit du thé, ensemble, on partage. Et je peux vous dire qu'en discutant avec des personnes assez âgées, plus de 80 ans, c'est leur seul lieu où ils rencontrent des amis jardiniers avec qui ils peuvent parler, échanger des idées. Sinon, il y a des personnes qui se retrouvent, le mari ou la femme est décédée, qui sont seules et ils sont bien contents de se retrouver.
Une fois par an, justement, on fait des barbecues, on se réunit avec tous les jardiniers, on passe un bon moment. Les jardiniers peuvent venir avec leur famille. Et maintenant, à cause du Covid, on fait rien. Et on faisait aussi au mois de septembre, octobre, l'auberge espagnole. Le but, c'était de faire des plats avec des légumes qu'on a produits ici. Donc, c'était très intéressant. C'était chouette, quoi. On a pu goûter à toutes les spécialités. On a partagé, on partage beaucoup, en fait. Il y a une solidarité. J'ai beaucoup de ça, je te donne, tu me donnes ça. On échange aussi bien, on échange des recettes, on échange les plants. Si par exemple, moi, je fais des plants à la maison, si j'en ai un peu trop, je donne à celui qui n'en a pas. Donc, il y a ce lieu, on peut dire, développe la sociabilité. Sociabilité, on est bien avec les uns avec les autres.
On n'imagine pas du tout, en fait, quand on est dans la ville autour, enfin dans les villes, parce qu'il y a plusieurs villes qui sont autour, on n'imagine pas le lieu, en fait. Et une fois que tu rentres à l'intérieur et que tu commences à faire le tour, c'est un endroit incroyable. Tu te dis, c'est presque un miracle qu'un endroit comme ça existe encore. Donc du coup, cette espèce d'impression, en effet, de mirage, de miracle, de paradis, et les oiseaux. Enfin, moi, je retiens beaucoup, il y a énormément d'oiseaux. Donc du coup, on entend énormément le chant des oiseaux. Et ce que j'aime, je ne sais pas comment je le qualifierais, mais les liens entre les jardiniers. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment génial, parce qu'en fait, on n'a pas de séparation entre les jardins, donc on se parle les uns les autres, on s'échange des choses. Moi, j'ai échangé, là, ma voisine m'a donné des plants d'oignons, je les ai plantés, je vais lui donner des plants de tomates que je suis en train de faire grandir. Lucas m'a ramené des plants d'oignons du Portugal, donc je dois les planter, là. Enfin, il y a cette espèce de bienveillance, et c'est une société... Enfin, moi, c'est une société comme j'aurais envie que la société soit, quoi. Dans le partage, dans l'échange, dans le troc.
Sale.
Bonjour tout le monde.
Bonjour. Je laisse la place si vous voulez.
Je dis bonjour à Lucas.
Allez, vas-y.
Tu vois, Lucas, il adore les oiseaux. Donc, il a des petites cages à oiseaux. Il est dans le grec. Lucas, j'ai d'autres visiteurs. Ils veulent voir tes lapins.
Quand j'ai été là-bas la première fois, j'avais vraiment l'impression d'être vraiment dans un espace de nature préservée au milieu. Et c'est la réalité, en fait. Et de sentir ce que ça a pu être, la nature ici, en fait. De sentir, voilà, c'est un dernier îlot de ce que ça a pu être la vie ici, en fait. La vie au sens large, et pas juste l'humain qui vient foutre des coups de marteau et des coups de marteau piqueur, quoi. Vraiment la vie au sens large. Et je trouve qu'il y a vraiment des endroits, surtout dans la partie haute, où en été, quand il y a beaucoup de feuilles, que les bruits de la ville sont atténués parce que c'est le soir, ou parce qu'il y a moins de gens dans la région parisienne, ou parce que c'est le confinement. Et t'entends la nature, en fait, t'as l'impression d'être au cœur de la campagne, alors que tu sors. Et en un pas, t'es au métro. Mais t'as vraiment l'impression d'être au cœur de la campagne. Et ça, pour moi, c'est un peu... C'est vraiment paradisiaque.
a des gens qui vivent en fait de leur production de légumes.
Oui, bien sûr. Et je peux vous dire non seulement qu'ils vivent, mais dépendent de leurs légumes. Je connais une personne, mais qui n'est pas touchée, heureusement pour elle, qui peut vivre avec sa production toute l'année. Toute l'année. Elle m'a dit, heureusement que j'ai ce jardin, parce que je suis la seule à élever ma fille. Et encore dernièrement, lorsque je l'ai vue, elle m'a dit, j'ai encore mon congélateur plein d'haricots et de courges. Donc, elle, vraiment, ça lui suffit. La plupart des gens, vraiment, comptent sur leur production et apprécient la qualité, le goût des légumes.
C'est financièrement, on est gagnant. Je suis gagnante pour les tomates, concombres. Tout ça, c'est des tomates que vous trouvez au magasin bio, 7-8 euros. C'est cher, hein, les légumes bio. Et donc, c'est un apport vraiment très, très important.
Pourquoi me l'a donné ? Parce que bon.
Chez les pauvres.
Chez les pauvres, c'est facile. On s'est dit ici, bah on va venir. Les jardins d'ouvriers, c'est que des ouvriers, c'est que des gens qui vont rien dire. Allons-y, faisons ce projet, bétonnons. Le fort d'Aubervilliers, c'est très grand. À l'intérieur, il y a énormément d'espace. Quelle est l'utilité de détruire un peu de jardin ? Bah parce que, comme l'a dit Ziad, c'est proche du métro, ça va être plus vendeur. Les gens qui viendront à la piscine, ils n'auront pas à marcher dans Aubervilliers, ils sortiront du métro, ils auront leur maillot de bain sur eux, ils pourront sauter dans la piscine et dans le solarium direct.
En fait, on a commencé à se mobiliser depuis le mois de juillet lorsqu'on nous a dit qu'on va impacter d'abord 19 parcelles en haut pour la construction du solarium qui serait rajouté au centre aquatique. Le centre aquatique, on est tout à fait d'accord parce que c'est nécessaire.
Nous avons une seule piscine, il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup d'écoles, collèges. Et, les enfants n'ont pas tous accès donc, à la natation, vu qu'on sait que tous les ans, il y a des noyades, des enfants, même des adultes qui ne savent pas nager. Donc c'est très très important. Mais ce centre aquatique d'abord... Il sera installé ou édifié sur ce terrain parce que c'est à l'approche des Jeux Olympiques 2024. Donc d'abord, ça va servir aux futurs champions qui viendront s'entraîner dedans avant d'aller concourir dans la nouveau centre aquatique olympique à Saint-Denis. On est contre le solarium parce qu'on trouve que ce n'est pas vraiment une nécessité. C'est ce que je pense, moi. Ce n'est pas une nécessité. Et d'un autre côté, j'essaie de me projeter dans le futur. Je ne m'imagine pas ce lieu qui sera très, très serré. Vous aurez le centre aquatique d'entraînement, plus tard, bon, piscine pour le monde, pour tout le monde. Ensuite, vous aurez cette gare de la nouvelle ligne 15. Il ne faut pas oublier qu'il y aura toujours ces lignes de bus. Ça sera très, très serré. Et puis, les voitures qui roulent devant.
Je
pense que ça, on l'a largement développé parce qu'il y a un nombre de mètres carrés par habitant ici qui est dérisoire, qui est 1,2 ou 1,3 mètres carrés d'espace vert par habitant. Ce qui est dérisoire parce que l'objectif en Île-de-France, c'est d'atteindre les 10 mètres carrés, sachant que je crois que c'est l'OMS qui préconisait 30 mètres carrés. Donc vous voyez, on en est mais extrêmement, extrêmement loin. Et donc rien qu'à ce titre-là, on devrait sanctuariser, ça devrait être interdit. Je sais qu'en Allemagne, récemment, il y a une loi qui interdit de couper un arbre. On ne peut plus couper un arbre. Il faut des autorisations, des choses comme ça. L'arbre est devenu quelque chose de précieux. Moi, je pense que la terre est précieuse, que les arbres sont précieux et qu'il devrait y avoir des lois qui les protègent au même titre qu'on protège les humains. C'est des choses qui vont arriver. Moi, je suis sûre que dans la dizaine d'années qui va arriver, on va avoir ce type de loi. Peut-être que ce sera trop tard pour nous, pour les jardins, je l'espère pas. Mais en tout cas, ça devrait être quelque chose de sacré, de sanctuarisé, et on ne devrait pas avoir le droit par rapport tout simplement à l'urgence climatique. À l'urgence climatique, au réchauffement climatique, au puits de carbone, enfin à toutes ces choses-là. Et parce que c'est nécessaire aux humains d'avoir les mains dans la terre.
Vous avez bien entendu, un solarium de 4000 mètres carrés.
Si tu veux, beaucoup de personnes ne croient pas, n'ont pas cru qu'on pouvait faire quelque chose contre l'État ou contre les décisions du département pour sauvegarder ces parcelles. Donc ils ont baissé les bras.
Donc il y a une certaine révolte, je ne sais pas est-ce que c'est inné, qui te dit tu dois faire quelque chose pour te protester, manifester, soutenir ces jardiniers.
C'est important. Donc depuis ce temps-là, on a commencé et on s'est mobilisé pour faire les portes ouvertes tous les samedis et faire des promenades afin que les habitants et les visiteurs qui viennent d'ailleurs, de Paris, il y a qui viennent d'Épinay, Villetaneuse, sont au courant de ce qui se passe actuellement et quelles parcelles seront détruites.
Et donc au mois de juillet, déjà on avait une petite manifestation devant le Fort d'Aubervilliers où a participé Mediapart avec Jade. Et ensuite, ce qui était très très intéressant, c'était en septembre, octobre, nous avons eu un passage, ils ont appelé ça une vélorution. C'est des vélos qui sont pas un groupe de cyclistes, à peu près ils étaient 110-120, qui sont partis de Paris. Et ils sont partis par des jardins ou des terrains qui doivent être impactés par l'urbanisme. Ils sont passés à côté de nos jardins, on les a accueillis, ils ont visité les jardins, ils ont parlé avec des jardiniers. Et c'était super, le cortège de vélo avec des grandes abeilles, les affiches de toutes sortes. Donc ils ont visité nos jardins et ensuite ils ont continué jusqu'à Dugny, la ZAC de la Gonesse, où il devait se construire le grand centre commercial. Mais le mouvement, ils ont gagné contre donc la construction parce que c'est les terres agricoles, la ZAC de Gonesse, Dugny. Et maintenant, ils continuent la lutte parce que le Grand Paris Aménagement a décidé aussi d'implanter dessus une gare du futur métro de ligne 15, la même que près de chez nous.
C'est hyper important de préserver la vie, le vivant et surtout la vie sauvage. Il y en a tellement peu autour de nous. C'est vraiment un des derniers bastions de vie sauvage. Et en plus, c'est un lieu d'histoire. Enfin, il y a vraiment tous les ingrédients pour le défendre. Mais c'est quand ils auront réussi à le détruire, parce que on se bat vraiment contre un géant qui a beaucoup de chances de réussir et qui ira plus loin, hein, parce que rien ne l'arrêtera jamais. Si en 2021, ils arrivent à détruire 1 hectare de jardin, ça veut dire qu'en 2032, ils pourront en détruire 7, il n'y a pas de problème. Donc s'ils arrivent à faire ça, en fait, ils vont vraiment construire ce monde dans lequel on vit déjà, qu'il n'y a pas de rêve, quoi. C'est noir, il n'y a plus d'avenir, on vit avec des masques en permanence, on ne peut plus sortir pendant 2 mois de l'année tellement il fait chaud, on ne peut plus rester chez soi, enfin, ça devient vraiment un enfer. Et il n'y a rien qui arrête ça, quoi. Il n'y a vraiment rien. C'est comme si c'était un programme. Et donc, c'est pour ça qu'il faut lutter. Il faut vraiment essayer de préserver des espaces. Et surtout ici, c'est-à-dire que je pense que c'est vraiment complètement symptomatique. Et tu parlais tout à l'heure du plan jardin partagé de l'État. Mais il y a aussi un plan hébergement d'urgence. Et au même endroit, juste de l'autre côté du fort, ils sont en train de vider 5 immeubles d'hébergement d'urgence, de foyers.
Et je pense aussi, regarde les personnes qui habitent, par exemple, dans ces cités courtilières qui sont vraiment très denses, la population est dense. Lorsqu'ils ouvrent des fenêtres, ils ont une belle vue sur les jardins. Après, y a des camions qui vont circuler, etc. Et après, le solarium. Mais on ne sait toujours pas est-ce qu'il sera minéral ou végétal.
Oui, alors je m'appelle Philippe et j'ai un jardin depuis à peu près 12 ans. Bah, à partir du moment où on a une parcelle, on est membre de l'association.
Mais et à la présidence ?
Alors à la présidence, ça c'est plus récent, c'est il y a 4 ans à peu près, l'ancien bureau recherchait un peu des nouvelles énergies et m'ont coopté, enfin m'ont demandé si je voulais participer. Donc je me suis présenté sur la liste à l'Assemblée Générale et puis je suis rentré au bureau, d'abord comme secrétaire et puis il y a 2 ans comme président. Bah, moi, à la limite, j'ai rien à en penser. Du solarium, c'est un choix qui a été fait de la mairie. Bon, je pense que je pense pas que ce soit un choix très, très judicieux, mais bon, pour l'instant, le choix a été arrêté par l'ancienne municipalité. Donc, juridiquement, je vois pas trop ce qu'on peut faire, quoi. D'autant que le marché de travaux a été attribué à Spi Batignolles. Avant le changement de municipalité, ce qui fait que s'il fallait réviser le projet du centre aquatique, ça supposerait pour la mairie repartir sur un nouvel appel d'offres et donc des pénalités importantes. Donc je peux aussi comprendre que la municipalité actuelle n'envisage pas cette solution. Donc du coup, les choses sont un peu figées, quoi. Mais à la limite, on n'a même pas, nous, à rentrer dans ce débat-là, de mon point de vue. Enfin, en tout cas, pas en tant que président. Je veux dire, c'est bon. Par rapport au projet de la gare, donc l'enquête publique, disons que la Société du Grand Paris qui va s'occuper de la future gare, a déposé un projet dans lequel un périmètre de jardin va être impacté, d'à peu près 5000 m². Et donc suite à ce projet, donc il y a une enquête publique qui va s'ouvrir là à partir de lundi pendant 5 semaines. Alors pas seulement par rapport à la gare du fort d'Aubervilliers, par rapport à toutes les gares de la ligne, de la future ligne 15. Donc là, ça va être sûrement beaucoup plus serré. Parce que je pense pas que... Bon, alors, dans ce projet, Grand Paris Aménagement est toujours chargé de l'aménagement. Donc ce sera notre partenaire aussi pour le chantier de la gare. Voilà, donc on n'est pas sorti de l'auberge. Alors après, actuellement, le débat, c'est d'abord de notre part obtenir de la Société du Grand Paris des preuves comme quoi ils ont vraiment besoin de ces 5000 m². Donc ça, c'est un axe de défense. Et après, voir si le périmètre dont ils souhaitent bénéficier peut pas être revu au bénéfice des jardins. Voilà. Après.
Après, normalement au 1er avril, enfin 30 mai, les cabanes qui sont concernées, les 19 parcelles qui sont concernées par la première phase de destruction des jardins doivent être vidées. Au-delà de cette date, les personnes sont tenues responsables du fait qu'elles restent et seront soumises à des amendes et des choses comme ça potentiellement. Et donc ça va être un vrai nœud de tension. Et probablement, entre-temps, dans les jours qui viennent, le permis de détruire sera accordé par la ville d'Aubervilliers, donc pour la piscine et pour le solarium. Normalement, donc c'est un délai de 5 mois, je crois, complètement incompressible pour des espaces qui sont destinés à accueillir du public. Je crois qu'ils plaisantent pas avec ça. Et donc là, ça devrait être à partir du 23 avril, normalement, qu'ils pourront recevoir le permis, donc l'afficher. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, même s'il est opposable, le permis, ça n'empêche pas les gens de faire des travaux. Souvent, ça les empêche de faire parce que les banques attendent la fin de la période opposable et vérifient qu'il n'y a pas de recours contre le permis. Mais dans le cas qui nous intéresse, il n'y a pas de banque, a priori. Donc ça va dépendre. Peut-être que SPI refusera de commencer les travaux en attendant la fin des... Mais peut-être qu'ils ne refuseront pas. Enfin, on va voir. Ça va être un vrai jeu parce que il va falloir vraiment qu'on arrive à bloquer le temps des recours parce qu'en plus, et ça, c'est un peu la cerise sur le gâteau, leur permis de détruire est illégal. C'est-à-dire que le plan local d'urbanisme est illégal. Il n'est pas juste... Il est carrément illégal. C'est-à-dire qu'il ne respecte pas tous les textes qui lui sont supérieurs en termes d'aménagement de la région Île-de-France, le schéma directeur de la région Île-de-France et toute une série d'autres choses. Il les piétine allègrement et ne les respecte pas et les contredit alors qu'ils lui sont supérieurs. Donc, si on arrivait à faire bouger la justice suffisamment vite, ce qui n'est pas du tout gagné, eh bien, il y a vraiment de fortes chances qu'un juge nous donne raison, comme il a donné raison récemment aux défenseurs de l'air des vents, ou à Air des Vents, où Stéphane Troussel, le président du département, avait fait ses devoirs, contrairement à la mairie d'Aubervilliers, à Madame Derkaoui et à Madame Franklet, surtout Madame Derkaoui, qui n'ont pas fait leurs devoirs, c'est-à-dire que quand ils ont décidé de sacrifier les jardins, ils n'ont pas pris le temps de changer le schéma directeur de la région Île-de-France, que ce que Stéphane Troussel a pris le temps de faire, etc., pour détruire l'air des vents. Donc ça veut dire que leur plan local d'urbanisme est illégal, ils ne respectent pas les règlements qui lui sont supérieurs. Donc voilà.
Et donc on le conteste.
Et donc on le conteste, et on espère qu'on va gagner. Après, c'est une question de course contre la montre, quoi. Enfin, sachant que la
justice. Et on va contester le permis construire dès qu'il sera affiché sur les.
Et on va les saisir, on va les contester, et on va essayer de bloquer les travaux au maximum et pour les retarder, pour permettre à la justice de fonctionner et de dire la vérité, quoi, de dire que c'est pas juste en fait ce qu'ils sont en train de faire.
C'est vrai que c'est contradictoire, c'est pour ça qu'on ne comprend pas déjà le nom d'éco-quartier. En quoi elle sera écologiste. Ça représente des énormes quantités d'entretien, d'énergie. Et contradictoire qu'on nous prenne ces 19 plus 11 parcelles, ça fait mal au cœur, c'est inadmissible. Donc moi personnellement je ne comprends pas éco-quartier. Ils expliquent que donc tout ce qui sera impacté sera réinstallé, réaménagé donc dans l'association, fédération, des jardins familiaux collectifs. Mais c'est toujours personnel, je ne peux pas m'imaginer le terme amputé, moi je dis détruit, quelque chose qui est détruit, ça sera détruit à jamais, on ne peut pas dire réinstaller, ça sera détruit à jamais. Je ne crois pas qu'on va gagner, mais on se bat. Moi, je vais y croire jusqu'à la dernière minute. Est-ce qu'on réussira? On ne sait pas.
À vrai dire, les jardins ouvriers des Vertus se sont trouvés sur notre route, et avec eux la farandole d'éléments de langage qu'on retrouve dans les lignes gouvernementales et de multiples appels à projets, comme le lien social, la mixité, le vivre ensemble, la démocratie participative, les valeurs de la République, sous forme spontanée d'utopie végétale et humaine.
Pas la peine de compter uniquement sur les artistes comme nous pour le faire. Le lien social et la mixité existent. Il faut simplement laisser de l'espace pour leur épanouissement. Les allumeurs travaillent à Aubervilliers depuis 15 ans avec beaucoup d'attachement à cette ville tout le monde qui nourrit nos pratiques dans le partage, l'exploration, l'expérimentation et la co-création.
Nous sommes soutenus et financés par la municipalité depuis 15 ans et par différentes institutions rattachées au ministère de la Culture, au ministère de la Cohésion des Territoires ou encore aux politiques de la ville. Mais surtout par des personnes qui nous font confiance au sein de ces institutions. Malgré la précarité de cette situation associative qui nous impose d'être financés essentiellement par projet, ces financements permettent de rémunérer tout un écosystème de gens et ils permettent aussi aux projets artistiques d'exister.
La ville d'Aubervilliers soutenant ce projet de solarium qui va détruire une partie des jardins des Vertus, notre situation dans ce contexte est très délicate et révèle la fragilité de nos financements, de nos moyens de subsistance et de création. Mais à l'endroit où nous sommes, artistes tout-terrain, précaires, militantes, associatifs, douces rêveuses énervées, comment pourrions-nous être contre ces jardins ?